Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Je vous prie de m'excuser, aujourd'hui je suis malade comme un chien, donc je parle sans doute un petit peu du nez. Enfin, ça a pas l'air là, mais peut-être que voilà, peut-être que vous entendrez certaines fois que j'ai le nez bouché complètement. Je me suis enrhumé hier soir, j'étais au gala de boxe de mon petit poulain. Voilà, qui a gagné encore une fois. Il a un palmarès de malade mental, donc je suis très très fier de lui, très content. Et du coup, entre la sueur, le chaud, le froid, eh ben je me suis complètement enrhumé. Donc voilà les amis, je vais parler un petit peu du nez, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez que dans les années 80-90, dès que t'avais un problème, c'est pas grave, il faut y retourner. Voilà, c'est ça l'esprit qu'on aime. Il y a aucune association qui va venir dire le nez bouché est un vrai problème. Les gens qui n'aiment pas écouter du son avec le nez bouché sont des racistes. Si vous avez le nez bouché, ne change rien. Non, non, si t'as le nez bouché, tu changes. Tu fais tout pour délivrer un bon podcast. Ça me fait penser au, comment il s'appelle, au discours de Rocky, quoi. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Je suis en train de le lire, évidemment, hein. Ne croyez pas que je l'ai de tête. Je suis en train de le lire. Ça m'a fait penser avant de faire le podcast. Je me le suis préparé, le texte. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Putain, non, Rocky, faut pas laisser faire la vie, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même, Stallone, quand il a écrit son truc, c'est « il faut pas laisser faire la vie », quoi. La vie, elle essaie de te mettre à genoux, cette salope. Il faut surtout pas la laisser faire, quoi. « Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. Ce qui compte, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. » C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on gagne. Putain d'Américain, quoi. C'est comme ça qu'on gagne. Voilà, contre la vie. T'as un rhume et tu te relèves et tu fais ton podcast. Non, franchement, là aujourd'hui, si j'avais pu me passer du podcast, je vous jure que je l'aurais fait parce que j'ai éternué. Mais des crises d'éternuement de fils de pute à répétition. À la fin, tu sais, je sais pas si vous connaissez ces rhumes, tu te mouches dans n'importe quoi à la fin. Tu sais, t'en peux tellement plus, tu te mouches dans une vieille chemise que tu fous à la poubelle, tu te mouches avec du PQ, tu t'arraches le nez, tu te mouches, voilà, tu es avec tout ce que tu trouves, de tellement qu'il y a du désespoir. C'est terrible les amis, mais je suis là, je suis présent, il fallait absolument que je fasse ce podcast, pour une raison très très simple, c'est que on est plus ou moins, je crois, sur les 50 ans, ou les 40 ans, ou les 30 ans, bon, je sais plus, les 40 ans peut-être, de la mort du petit Grégory. Attendez, je vais vérifier parce que c'est une affaire qui avait secoué le pays à l'époque, qui avait vraiment secoué tout le monde, et je voudrais vous en parler parce qu'elle est très très parlante, elle est très significative. Attendez, affaire Grégory, et on va en parler, hein. Je vérifie juste les dates parce que je suis une merde en maths. Voyons, est-ce qu'ils mettent l'année sur Wikipédia? Il est né en 80 et il est mort en 84, voilà, 16 octobre 84, c'est ça. Donc 84, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans depuis le 16 octobre 84. Bon, on est le 20, mais disons que cette semaine, c'était les 40 ans de l'affaire Grégory. Alors, l'affaire Grégory, pour vous la resituer très rapidement, c'est le meurtre tragique d'un enfant qui meurt a priori noyé. Alors on apprendra par la suite, je crois. Il faut m'excuser, je suis pas en train de vous faire un fait entrer l'accusé. J'ai pas la chronologie parfaite de l'enquête en tête. Je vais peut-être dire des micro-bêtises. Je connais assez bien l'affaire, entre guillemets, mais il est possible que je fasse quelques petites erreurs. Bon. Donc faut pas m'en tenir rigueur, c'est pas exactement du déroulé de l'enquête dont je vais vous parler, puisque ça y a plein de vidéos qui le font. C'est plutôt sur la signification de ce drame, qu'est-ce qui est arrivé, et quelle est l'analyse entre guillemets politique qu'il faut tirer de cette affaire, parce qu'il y a une analyse politique à formuler de cette affaire-là. Bref, donc je vous disais les amis, 84, le petit Grégory, donc c'est un enfant qui à l'époque est âgé de 4 ans, donc c'est vraiment un très petit enfant. Il est retrouvé avec une espèce de cagoule, un bonnet sur le visage, noyé dans la Vologne.
qui est en fait un fleuve qui passe dans le Jura, qui passe par la ville de L'Épange-sur-Vologne, qui est une petite ville ouvrière qui est devenue célèbre avec l'affaire en fait, parce que à l'époque ça a vraiment, on n'était pas habitué à la violence comme on l'est aujourd'hui, et ça a vraiment défrayé la chronique. Et les médias ont été extrêmement partie prenante dans cette affaire. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de foin médiatique autour de la mort du petit Grégory qui a choqué tout le monde. On était dans les années 80. On venait juste de quitter les 30 Glorieuses. La crise économique n'était pas encore complètement, complètement actée. Et vous avez comme ça ce petit garçon... qui disparaît assez tragiquement et qui est retrouvé donc avec des photos qui seront publiées dans la presse, qui est retrouvé ligoté avec une cagoule sur la tête. Donc on voit un espèce de commissaire le sortir de l'eau, et ça avait vraiment impacté, comme je vous disais, tout le monde. Alors bon, je vais vous épargner toutes les tribulations de l'affaire. En fait, grosso modo, c'est une affaire dans laquelle les journalistes ont été à la hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des énormes merdes, et ils se sont beaucoup beaucoup mêlés de l'enquête, ils ont interféré avec l'enquête jusqu'à même, si vous voulez, dévoiler des éléments qui auraient dû rester secrets, compromettre l'instruction, compromettre la validité de l'instruction, finalement même à la toute fin, à cause d'un enregistrement d'un journaliste, vous aurez un juge qui ne pourra pas faire son boulot jusqu'au bout. Excusez-moi, c'est un peu long à démarrer, mais je suis malade. Donc, si vous voulez, vous avez vraiment les journalistes qui ont fait foirer cette enquête. Ils ont vraiment fait foirer cette enquête. Ils ont exercé une pression monumentale sur la famille du petit Grégory. Donc, notamment sur sa maman. Ils l'ont même accusé à un moment. La presse a formulé cette idée folle que la mère du petit Grégory aurait pu tuer le petit Grégory. Fait un truc horrible, horrible, mais du niveau du journalisme français. Hein, je veux dire, aujourd'hui, les journalistes sont des salopes du point de vue politique. Avant, ils étaient du point de vue de la pudeur et de la... Ils étaient déjà dans le sensationnalisme, ils étaient déjà dans tout ce qu'il y a de détestable dans la modernité. Donc, si vous voulez, ils ont vraiment rendu la gestion juridique de cette affaire insupportable. Et puis ensuite, vous avez derrière ces journalistes, et je crois que c'est là la plus grande défaillance de l'affaire, vous avez tous ces petits juges, ces petits préfets médiocres qui sont infoutus de mener l'instruction, de mener l'appareil juridique de façon professionnelle, avec des bons choix, avec des choses qui auraient permis en fait d'éviter que ce drame humain ne devienne un drame médiatique et un drame juridique, parce que c'est ça en fait. C'est un drame humain qui est devenu par la suite, à cause du comportement des journalistes, puis de l'incompétence de l'appareil d'État, de l'appareil juridique d'État, qui est devenu vraiment un marasme à tous les niveaux, et qui, si vous voulez mon avis, symbolise, si vous voulez, tout ce qu'il y a de plus sale et tout ce qu'il y a de plus triste dans la façon dont fonctionne la République. Parce que c'est un crime qui est très très lié à ce qu'est devenu la France dans les années 80. Et moi je pense que dans ce monde, tout est symbolique, tout n'est que symbolique. Et quand on sait lire la symbolique, eh bien, souvent on dégage des grandes vérités. Et pour moi, le meurtre du petit Grégory, c'est la symbolique d'un passage d'une France à une autre, si vous voulez. C'est le passage d'une France à une France médiocre. Et ça va être acté d'une France encore plus ou moins française à une France complètement républicaine, à une France absolument désastreuse où les enfants meurent, en fait. Hein, parce que c'est ça. C'est qu'au bout du compte, il y a un enfant qui meurt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, grosso modo, on va dire, parce qu'on n'a pas encore officiellement les réponses. Voilà. On a des témoignages concordants, on a des faisceaux de présomption, on a des demi-certitudes. Mais de tout ça se dégage quand même une certaine logique, une certaine trame, et à peu près tout le monde est d'accord sur cette trame-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il manque encore des éléments pour acter que c'est bien cette trame-là qui prévaut sur les autres trames, sur les autres théories. Mais enfin, il y a quand même un faisceau d'indices qui indiquerait ce qui se serait réellement passé. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que le père du petit Grégory Villemain était issu d'une famille ouvrière dans le Jura et avait été promu quelque part contremaître, c'est-à-dire qu'il avait eu de l'avancement. Alors ça restait un ouvrier, mais ça restait un ouvrier ça devenait, pardon, un ouvrier supérieur. Ça n'était plus un exécutant, mais aussi, entre guillemets, un encadreur, un décideur, un espèce de cadre. Un ouvrier, mais un cadre, mais un cadre ouvrier. Bref. Donc, c'est une petite promotion qui s'échelonne sur le mérite. Donc, voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. On était encore dans une société de méritocratie. On n'était pas dans une société de subventions et de cooptage. Alors, ça a toujours existé, le cooptage. Mais ce que je veux dire, c'est que à petite échelle, vous aviez quand même encore le mérite qui prévalait et qui était encore les dernières traces, si vous voulez, de France, un petit peu à l'ancienne, de France médiévale. Excusez-moi pour les reniflements, je suis enrhumé. Et donc, vous avez ce père de famille, comme ça, qui arrive à s'extraire de sa condition uniquement ouvrière et qui devient un contremaître. Et pour son entourage, qui est composé d'ouvriers extrêmement pauvres, peu éduqués, peu cultivés, avec pas beaucoup de débouchés, avec pas beaucoup de possibilités à long terme, vous avez comme ça un espèce de décalage qui s'installe avec cette famille très ouvrière, entre Jean-Marie Villemin, je crois qu'il s'appelle. Attendez, je vais regarder, excusez-moi, parce que j'ai plus les noms en tête. Attendez. Putain, qu'est-ce que c'est infernal. Là, je suis sur le Wikipédia. Alors, Jean-Marie Villemin, voilà. Jean-Marie Villemin et Christine Blaise. Donc ça, c'est la maman du petit Grégory. Et son père, donc, c'est Jean-Marie Villemin. Alors, Jean-Marie Villemin, donc, c'est le fils de Monique Jacob et Albert Villemin. C'est très, très bien. J'ai l'arbre généalogique sous les yeux, là. Voilà. Alors, est-ce qu'il est en forme de cercle? Je me demande un petit peu. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que vous avez ce type qui accède, donc, à une certaine élévation sociale et qui, du coup, parce que la nature étant ce qu'elle est, bah, arrive à se dégoter une femme assez jolie, Christine Blaise. C'est vraiment la petite fleur sur le tas de fumier, quoi, qui a poussé sur le tas de fumier. Non, j'exagère quand je dis ça. C'est le monde ouvrier n'est pas un tas de fumier. Hein. Moi-même, mes parents sont issus du monde ouvrier et paysan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, à cet endroit-là, si vous voulez, c'était quand même la misère. Voilà, c'était ce que le monde ouvrier avait de plus misérable. Bon. Entre autres, hein, parce que vous aviez aussi les corons, vous aviez dans le nord, vous avez comme ça des bassins ouvriers où malheureusement vous avez tout qui se conjugue. Vous avez l'alcoolisme, vous avez la misère sociale, vous avez la misère sexuelle, vous avez l'analphabétisme. Enfin, c'est assez dramatique. Bon, et d'ailleurs on le tourne souvent en dérision, alors que ce sont les gens qui sont les témoins de la brutalité qu'a pu être à un moment l'industrialisation et si vous voulez le divorce progressif historique d'avec la tradition d'artisanat et de manufacture, puisqu'avant l'industrie c'était l'artisanat et la manufacture, voilà. Et en fait l'industrie arrivait à balayer complètement tout ça et c'est devenu quelque chose de beaucoup moins organique, de beaucoup moins familial, de beaucoup moins local, de beaucoup moins familier, de beaucoup moins si vous voulez humain, et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus mécanique, voilà, et de beaucoup moins organique. Donc ça a été un peu la machine à broyer. Vous avez toute une génération au 19e siècle, fin 19e, début 20e, qui a complètement été broyée par l'industrie, et ça a donné la brutalité de cette vie-là, la brutalité de la vie industrielle, a donné, si vous voulez, des gens qui ont été les héritiers de cette brutalité, pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a aussi des belles valeurs dans le monde ouvrier, mais aussi pour le pire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des alcoolos, consanguins, complètement analphabètes, cons comme des balais, et en plus mesquins, vous voyez, bon. Donc, si vous voulez, dans cette famille, dans la famille Villemin, La Roche, Boll, compagnie, les Jacob, tous les gens qui ont été un peu liés à cette affaire, vous aviez beaucoup de gens qui étaient quand même issus de cet héritage un peu difficile ouvrier, voilà. Bon, c'est une manière un peu polie de vous dire que tout le monde était à moitié mongolo quand même, voilà, hein, on va dire les choses, hein, tout le monde était à moitié mongolo. Donc, Jean-Marie Villemin se marie avec Christine Blaise, la bombasse du secteur, la bombasse du Jura. Paf, ils ont un enfant, le petit Grégory, mignon comme tout. C'est vraiment l'enfant des années 80. Comme moi, je suis un enfant des années 80. Je suis né 6 ans après le petit Grégory. Et d'ailleurs, l'affaire avait beaucoup, beaucoup choqué mes parents et notamment ma mère, qui pensait souvent, qui trouvait ça terrible. Vous savez, à l'époque, les gens n'étaient pas habitués à ce que des enfants meurent. Dans les années 80, si des enfants s'étaient fait poignarder dans des parcs, comme ça a été le cas récemment, il y aurait eu d'autres conséquences qu'une chanson avec une boîte à musique. À l'époque, vraiment, la notion de famille, la notion de protéger les enfants était quand même encore très présente en France. Elle était encore très, très, très présente. Et je me rappelle que les mamans françaises avaient énormément de peine pour Christine Blaise, qui était la mère du petit Grégory, et qui faisait vraiment un transfert. Moi, vraiment, c'était un truc qui était très présent à l'époque. Il fallait vite rentrer de l'école. Déjà, il y avait les affaires de pédophilie qui secouaient la France. Il y avait les affaires de pédophilie, il y avait eu l'affaire du petit Grégory. Donc les enfants, mauvais temps pour les enfants. Et d'ailleurs, encore une fois, très très symbolique. Quand un pays n'est plus en capacité de protéger ses enfants, c'est-à-dire en fait son avenir et ce qu'il a de plus précieux, de plus innocent, c'est que ce pays dysfonctionne. Et c'était assez annonciateur, en réalité. Moi je pense que le monde horizontal, le monde qu'on vit, est rempli de symbolique. Et on était vraiment dans l'annonciation de choses assez négatives, voilà. Donc, si vous voulez, à l'époque, ça défrait la chronique. Donc, la presse fait énormément de reportages photos. Vous avez les journalistes qui sont plus ou moins copains, entre guillemets, avec la famille Villemain. Et puis, vous avez des journalistes qui sont des rapaces. Et puis, vous avez les avocats. Parce que, comme l'affaire est ultra médiatisée, vous avez cette espèce de syndrome qu'il y a encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de vouloir absolument être connu, de vouloir prendre un petit peu de hype, comme on dirait aujourd'hui, de vouloir prendre un petit peu de lumière et d'en fait être présent à la caméra, d'être vu, d'être associé à cette affaire d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de journalistes qui ont fait des reportages avec du sensationnalisme, qui ont beaucoup nui à l'affaire, qui ont beaucoup nui à la famille. La famille a vraiment été très courageuse parce qu'ils ont été mais vraiment bombardés de questions, d'une violence inouïe, de demandes d'interview. Ils étaient poursuivis. Il y avait des paparazzi qui les poursuivaient. Mais je sais pas comment ils ont fait pour survivre à ça. Il y a eu d'ailleurs, alors, il y a un reportage qui était sorti il y a quelques années. 2-3 ans peut-être. Un reportage de très très bonne qualité, il faut le dire. C'est Netflix, mais c'est de très très bonne qualité. Je l'avais vu à l'époque. Reportage exceptionnel. Où vous vous replongez avec plusieurs protagonistes dans l'affaire avec l'espèce de médiocre juge Lambert qui a été un foutu de faire son boulot et qui a fini par se suicider comme l'énorme merde qu'il est. D'ailleurs, très intéressant, c'était encore une époque où les défaillants se suicidaient. Alors, je suis pas pro-suicide, hein, je suis catholique, moi je suis pour que les gens se remettent d'aplomb et affrontent... Mais entre... voilà, que Dieu me pardonne, hein, je vais dire quelque chose qui est un peu un péché... Mais entre une merde qui continuera à être une merde toute sa vie et qui va éclabousser le monde physique de la merde qu'il a à l'intérieur en la matérialisant à l'extérieur, entre ça et une merde qui se tire une balle dans la tête, si la merde qui se suicide pas ne changera jamais et doit entrer dans la tombe en ayant vécu une énorme vie de grosse merde qui a fait beaucoup de dégâts, je préfère qu'il se mette une balle dans le ciboulot. Voilà. Alors ça, c'est très clairement péché de vous dire ça. Là, c'est le barbare qui parle, c'est pas le catholique. Mais pour moi, le juge Villemain, le juge Lambert, donc le juge qui était à charge de faire parler la petite Muriel Boll, donc qui était très certainement aux côtés de la supposée personne qui aurait enlevé le petit Grégory, c'est-à-dire en fait Bernard Laroche. C'était Muriel Boll, donc alors Muriel Boll qui a subi un lavage de cerveau et qui est incapable aujourd'hui de dissocier la réalité de ce qu'il lui a interdit de formuler. Enfin, c'est très 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 particulier. Bref, on va y revenir. Mais grosso modo, parce que je veux pas vous raconter l'histoire parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent et si vous la connaissez pas, je vous la raconterai toujours moins bien que ce reportage Netflix absolument passionnant, qui est très très bien. Alors, il y a plusieurs épisodes. Ça va vous replonger en plus dans la France des années 80. Et donc voilà, vous avez donc ce juge qui a été infoutu de mener, le juge Lambert donc, qui a été infoutu de mener une instruction correcte, alors qu'il avait vraiment la petite Muriel à portée de main qui allait donner les aveux. Et en fait, il l'a renvoyé chez elle, au lieu de la garder en garde à vue, il l'a renvoyé chez elle, parce qu'il s'est très très mal débrouillé. Alors, j'ai pas les tenants, les aboutissants juridiques, mais c'est un mec qui a travaillé comme un cul, quoi. Voilà, il a travaillé comme un cul. Et résultat, elle s'est retrouvée à rentrer chez elle, elle a pris un savon monumental pour ne plus jamais parler, et c'est ce qu'elle fera. Elle ne parlera plus jamais, compromettant ainsi les chances de la justice de finir par aboutir à trouver la vérité sur le meurtre du petit Grégory. Donc, la vraisemblance, je vous le dis maintenant, comme ça c'est évacué, vraisemblablement, ce qui se serait passé au conditionnel, le faisceau convergent de preuves et de témoignages, impliquerait Bernard Laroche, donc le cousin, je crois, de Jean-Marie Villemain. Alors, j'ai pas exactement tous les, faut pas m'en vouloir. J'ai pas exactement tous les liens de famille, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est son cousin, en fait. Bernard Laroche, en fait. Excusez-moi, je suis enrhumé. Bernard Laroche, en fait, aurait pris la petite Muriel Boll avec une piqûre d'insuline, serait allé chercher le petit Grégory qui jouait sur un tas de sable dans le jardin de sa maison, pendant que sa mère faisait du repassage. Alors, j'ai vu des gens sur Internet qui disaient « Oui, comment ça se fait que sa mère n'était pas en train de surveiller à l'extérieur ?» Moi, vous savez, ma mère était une mère très aimante. Moi, j'ai passé mon enfance dehors à jouer avec les copains. J'aurais pu me faire kidnapper 40 millions de fois. Hein. Je veux dire, mettre la faute sur la mère parce qu'elle n'était pas à côté de son fils quand il s'est fait kidnapper, faut pas déconner. Il était en train de jouer dans le jardin. Elle était à l'intérieur en train de repasser. Moi, des fois, ma mère, elle était à l'intérieur en train de repasser. J'étais à 4 km en train de jouer à côté d'une centrale électrique, si vous voulez. Donc, bon, bref. Donc, ça, c'est pour le côté mauvaise mère. Ça, c'est vraiment de la merde absolue. Donc, si vous voulez, le cousin de Jean-Marie Villemain, donc le gars qui a un peu réussi, par jalousie, serait allé donc kidnapper le petit Grégory, lui faire une piqûre d'insuline. Il serait parti avec la petite Muriel Boll pour amadouer le petit Grégory, puisque Muriel Boll était adolescente à l'époque. Il lui aurait fait une piqûre d'insuline. Alors là, il y a plusieurs théories. Alors, il l'aurait remis aux époux Jacob, qui aurait fait une piqûre d'insuline à l'enfant, qui aurait été la piqûre mortelle, il l'aurait ensuite jeté dans l'eau, parce que je crois qu'il n'est pas mort de noyade, il est mort à cause de la piqûre d'insuline. Bref. Donc, si vous voulez, le meurtre est absolument sordide et absolument horrible, et le meurtre est précédé pendant les quelques mois qui précèdent le meurtre de l'enfant, vous avez des appels par un fameux corbeau. Donc, je vous invite à regarder encore une fois le reportage Netflix, parce que vraiment, il est très très bien fait et il est extrêmement complet. Et ce sera toujours moins bien ce que je vais vous raconter que le. Mais c'est sur l'analyse que je vais arriver, c'est pour ça. J'essaie d'aller vite sur l'affaire. Les mois avant le meurtre, donc, il y avait des appels, des lettres anonymes, avec des orthographes de fils de pute. Bon, moi aussi, j'ai une orthographe de merde, mais à l'époque, l'école était encore normale, donc les gens n'avaient quand même pas d'excuses pour. Moi, je suis arrivé au moment où c'était un truc de Goliot, voilà. Donc vraiment une orthographe et une prosodie et une écriture, pas une prosodie, pardon, une graphie de malade mental. Et donc, ils recevaient des lettres comme ça. Ils recevaient des lettres qui les insultaient, qui les menaçaient. Et alors, tu t'es acheté un nouveau canapé, des trucs comme ça, des trucs horribles. Des trucs, en fait, qui étaient des appels de la famille pour déstabiliser la petite famille qui vivait un petit peu le French Dream, mais le vrai French Dream, quoi. C'est-à-dire, t'es ouvrier, tu te casses le cul, tu bosses, tu finis par te payer la baraque de rêve sur les hauteurs de je sais pas où, tu te ramènes la petite Christine Blaise qui est pas trop mal, tout le monde se pouille en pensant à elle, donc du coup, t'es un peu le boss, quoi. Voilà, de tout ce merdier, t'es un peu le boss, et ça, pour la famille qui était pétrie de jalousie. Alors, faut savoir que c'est une famille plutôt d'extrême gauche, parce que vous avez Bernard Laroche, donc sans doute le kidnappeur de Grégory Villemain, qui est un ouvrier bleu de travail, l'ouvrier à l'ancienne, moustache, tête de mousquetaire, qui était à la CGT, il était syndiqué à la CGT. Donc, tout ce petit monde n'était pas... J'imagine dans les chaumières qu'il devait y avoir du Le Pen, c'est vraiment un enculé. Voilà. Puis après, ça kidnappe des gosses, ça leur fait des piqûres d'insuline, parce que c'est insupportable que ses parents se soient achetés un nouveau canapé, en fait. Parce que c'est ça, en fait, à un moment dans le reportage, vous avez un invité de cette famille là, de Jean-Marie et de Christine, de Jean-Marie Villemain et de Christine Villemain, Christine Blaise, donc épouse de Villemain. Ils invitent une partie de leur famille chez eux, et en fait, ils ont acheté un nouveau canapé. Et t'as un mec de la famille qui fait « Oh, mais ça, c'est un canapé de chef, ça !»« Oh, ça, c'est un canapé de chef !» C'est-à-dire que le mec voit que l'autre, il s'est acheté un canapé à but, ça lui fait péter un câble, en fait. Ça lui fait péter un câble, et ça lui fait tellement péter un câble, il est tellement jaloux qu'il va lui crever son gosse, en fait. Enfin, il va participer à l'équipe qui a tenté de faire dérailler les époux Villemain et peut-être des complices du meurtre. Allez savoir, parce que En fait, c'est un tout petit milieu, c'est un tout petit village. Et en fait, il y a ce que savent les journalistes, il y a ce que c'est le public. Et puis après, il y a ce que savent les locaux. Et les locaux, ils en savent 98% fois plus que n'importe qui. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des histoires de village. C'est des histoires de village assez sordides. Et si vous n'êtes pas de là-bas, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que c'est souvent des trucs, ces espèces de dettes familiales qui datent de je sais pas quand. Enfin, c'est des trucs de malades mentaux, quoi. Donc du coup, si vous voulez, vous avez ce truc très symbolique. Voilà, c'est sur la chose sur laquelle je voulais arriver. Vous avez ce truc très symbolique. Il y avait deux choix pour les personnes qui étaient dans l'entourage du couple qui avait réussi. C'était sortir de sa condition en redoublant d'ingéniosité ou même rentrer dans le privé, monter sa propre société. Dans les années 80, vous deveniez cuisiniste, carreleur, déménageur, vous pouviez très très bien gagner votre vie. Je veux dire, faut comprendre qu'à l'époque, l'entreprise n'était pas aussi taxée que maintenant, et les mecs, alors ils bossaient, hein, attention, hein, ça bossait dur, hein. Mais à l'époque, vous aviez pas le contrôle informatisé que vous avez aujourd'hui, et tous les gens qui avaient des entreprises et qui étaient un peu sérieux, qui étaient un peu bosseurs, ils ont fait un pognon monumental. Alors après, il y en a beaucoup, comme ils ont pas déclaré grand chose, ils se sont retrouvés avec des retraites de merde. Mais il y en a qui s'en sont très 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 bien sortis, en faisant la bonne dose de travail au noir et la bonne dose de travail déclaré. Et vous avez des types à l'époque, les piscinistes, les carreleurs, les cuisinistes et tout, ceux qui avaient pas peur de travailler, ils finissaient avec des salaires et des vies enviables. Moi, je vivais dans une petite ville donc qui s'appelait Plaisance-du-Touche quand j'étais gosse. Et Plaisance-du-Touche, vous aviez de très très belles maisons. Alors on pourrait croire que c'était parce que vous aviez des notaires ou je sais pas quoi qui vivaient dedans, mais pas du tout. En fait, moi j'étais dans une ville où vous aviez beaucoup de professions comme ça, d'artisans, de mecs qui étaient dans le bâtiment, mais qui derrière il y avait beaucoup de Portugais, de pieds noirs, qui bossaient dans le bâtiment et qui avaient des jolies maisons, qui avaient des très jolies maisons, parce qu'à l'époque, dans les années 80, tu pouvais acheter des terrains autour de Toulouse sans te ruiner. Tu pouvais facilement te faire construire une maison sans te ruiner. Moi, mes parents, la maison de mes parents, la maison qu'on avait à Plaisance-du-Touche, quand mes parents l'ont achetée, en équivalence, d'accord, en équivalence en euros, d'accord, en tenant compte de l'inflation, je l'avais calculé, c'était 50 000 euros. Donc 25 000 euros chacun de crédit. Vous imaginez si vous êtes en couple et vous aviez chacun 25 000 euros de crédit, ça serait quand même autre chose que 100 000 euros de crédit à deux ou 150 000 euros de crédit à deux. Donc mes parents, pour l'équivalent de 25 000 euros, donc en tenant compte de l'inflation, ils ont pu accéder à une maison qui faisait à l'époque 100 mètres carrés, je crois la maison, 110 mètres carrés. Donc avec un petit jardin et tout, donc on était heureux comme tout. Et pourtant mes parents étaient des gens de la classe moyenne. Hein. On n'était pas classe moyenne plus, ni classe moyenne moins, on était vraiment dans la classe moyenne. Mes parents avaient le salaire, ma mère était un peu plus que le SMIC. Et mon père, pareil, c'était, ça serait l'équivalent aujourd'hui de, je sais pas, mon père devait gagner l'équivalent de 1800 euros et ma mère devait gagner 1300 euros, 1400 euros, vous voyez ? Ça serait ça l'équivalent, quoi. Donc, si vous voulez, le fait de pouvoir devenir propriétaire pour 25 000 euros chacun, c'était quand même une époque incroyable. Donc, si vous voulez, toute la famille de Jean-Marie Villemain, et ils auraient pu, si vous voulez, se lancer dans l'entreprise et non. Et les mecs, en fait, comme c'est, quand même, il faut le dire, des alcoolos, des grosses merdes envieuses et des ratés, il y en a pas un qui a été capable, si vous voulez, de s'extraire de sa condition. Et en fait, ils ont fait quelque chose de très naturel, mais de très coupable, parce que vous avez les deux choix. Vous avez la pente naturelle qui vous pousse à dire « Ah, si ma vie est merdique, c'est à cause des autres ». Et vous avez la pente qui, elle, est un peu moins naturelle et qui est un peu plus compliquée, qui est de dire « Putain, j'ai une vie de merde, c'est pas forcément la faute des autres, peut-être que moi, j'ai une marge d'action ». Voilà. Et en fait, ils étaient entourés de gens qui ne se sont pas dit qu'ils avaient une marge d'action. Ils étaient entourés de gens qui buvaient des Ricard et qui ont décidé de tuer l'enfant du couple heureux parce qu'en fait, mais ça c'est très très français, hein. Ça c'est très très gauche française, hein. C'est puisque moi je suis pas heureux, faut que tout le monde soit malheureux. Ça c'est un truc vraiment, mais très 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 circonscrit à l'esprit français. Je le vois parce que c'est comme si vous voulez, y avait un côté. La France c'est bon, il y a pas assez de radeaux pour que tout le monde quitte le Titanic. Ben écoutez, on va percer tous les radeaux, comme ça tout le monde meurt sur le Titanic. C'est très 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 particulier comme esprit. Hein. C'est très 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 très. Il y a vraiment un truc culturel là-dessus. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Je suis très prompt à critiquer les autres cultures et à mettre le doigt sur ce qu'il y a de dysfonctionnel dans les autres cultures. Sachez que notre culture aussi a sa part de choses dysfonctionnelles. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. On a, nous, les Français, on a un problème avec l'ambition, avec la réussite. Hein. C'est parce qu'on a un pays qui est profondément marxiste, on a un pays qui est profondément avec une culture de l'envieux, de l'envie, parce qu'on est dans une société de caste. Déjà, la France, en fait, se présente comme un pays égalitaire, alors que c'est un pays de caste. Donc, c'est un pays où tout le monde doit être égal, mais en même temps, tout le monde veut être plus égal que l'autre. C'est une expression que j'adore. Tout le monde veut être plus égal que l'autre. On aime l'égalité, mais on veut être quand même un peu plus égal que le voisin. Ce qui veut dire, en réalité, que l'égalité, on la veut comme plancher, mais ce qu'on désire ardemment, c'est du pouvoir et beaucoup plus de... Et beaucoup plus de puissance et de richesse, en fait. Donc, on a cette espèce de rêve de l'égalité, mais personne n'en veut. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que les représentants politiques qui parlent d'égalité, de justice sociale, sont des représentants politiques qui font leur métier de cette représentation et qui sont grassement payés pour ça. C'est-à-dire que moi, je comprends pas comment les gens de gauche peuvent regarder Louis Boyard, leur dire « Oui, justice sociale !» et puis prendre 6 ou 8 000 euros de salaire pour venir dire « la pauvreté, c'est pas bien » et « Free Palestine », en fait, parce que c'est ça qu'il fait. Puis, il sait pertinemment que rien ne changera. Et d'ailleurs, quand vous êtes à la place de quelqu'un qui gagne 6 000 euros par mois avec je sais plus combien d'avantages en nature mensuelle, vous n'avez aucune envie que quoi que ce soit ne bouge. Hein. Si le système qui vous donne 6 000 euros par mois pour être député, pour participer au cirque républicain s'effondre, vous n'allez pas être heureux. Hein. Si les 6 000 euros, ils arrêtent d'arriver sur le compte, vous n'allez pas être heureux. Hein. Vous n'allez pas me faire croire que le petit Louis Boyard, que Mathilde Panot et que tous les incapables qui vous représentent politiquement à gauche, mais même à droite, hein, c'est pareil pour la droite. Hein, vous n'allez pas me faire croire que ceux-là, ils ont envie que le système change au point qu'ils arrêtent de toucher leur salaire. Parce qu'en fait, si on arrive à détruire la République, bon, on n'a plus besoin de Sénat, on n'a plus besoin de députés. Et les uns comme les autres, la droite qui vous disent « oui, il faut tout réformer bon, ». Alors la droite, ils sont moins menteurs parce qu'ils vous disent pas « on veut remettre un roi ». Il y a aucun parti qui vous dit « on veut remettre un roi sur le trône de France ». Donc à la limite, ils mentent moins. Mais tous les partis de gauche qui vous disent « oui, justice sociale !» Justice sociale, bon, le jour où les 6 000, ils arrêtent d'arriver sur le compte, ils vont être heureux. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc ceux-là qui vous parlent de révolution et de renversement de la République, 6ème République, vite! Ceux-là, ils... Non, non. Non, non. Si tout pouvait rester exactement comme c'est à l'heure actuelle, ça serait parfait pour eux. Ça serait parfait pour eux. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut quand même bien comprendre qu'on est dans un pays comme ça. On est dans un pays où l'envie est là. On va dire le petit mercantilisme de soi, la petite épicerie personnelle est quand même quelque chose de très, très important. Et si vous voulez, pour en revenir à l'affaire... C'est pour ça qu'elle est très symbolique. C'est pour ça que moi, je suis très attaché à la symbolique de cette affaire. Vous avez un entourage de gauche qui est incapable de s'extirper de la merde dans laquelle il est et qui, du coup, va tomber dans les bras de la jalousie pour faire payer donc au père du petit Grégory l'outrecuidance qu'il a eue de réussir. Voilà. Donc, tu réussis dans la vie... Tu as une jolie femme, tu as une jolie maison, et ben on va tuer ton fils. Voilà. La France d'extrême gauche, c'est ça. Hein. Voilà. Bernard Laroche, il était syndiqué à la CGT. Voilà, la CGT, c'est pas d'extrême droite. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, l'affaire Grégory, c'est toute la mesquinerie de la gauche française. Hein. Tout cet esprit merdique, anti-réussite, anti... Mais même, il y a tout qui se mêle, il y a le côté anti-famille, quoi. Qu'est-ce que tu vas t'en prendre à un gosse? Et ça, c'est l'héritage de la Révolution, hein. Si vous voulez, le côté être capable de faire ça à un enfant, il y a vraiment l'héritage révolutionnaire de « on a tué le fils du roi, on peut tuer les enfants, rien n'est sacré ». Voilà, rien n'est sacré, mais de toute façon, c'est le grand mal de la France, c'est que plus rien n'est sacré. Plus rien n'est sacré. Les enfants ne sont plus sacrés. On peut les poignarder dans les parcs ou leur mettre une piqûre d'insuline et les balancer dans la rivière. Hein, ou les enculer, comme le préconise le journal Libération dans lequel travaille Pierre Plotu. Si vous voulez, c'est une espèce de leitmotiv qui chapeaute l'ensemble de la société française. Plus rien n'est sacré. Et donc, comme plus rien n'est sacré, ben, tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut. Et tout le monde, à condition de ne pas être solvable. Hein, voilà. Mais si vous voulez, c'est la fiesta, quoi, en fait. C'est le, crache sur, tag ce monument aux morts, crache sur ton histoire, crache sur toi-même, crache sur ta propre ethnie, crash sur les hommes de plus de 50 ans, voilà, c'est crash, 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 on est devenu une civilisation de crasheurs, voilà, et d'ingrats, de fils ingrats, quoi, de fils ingrats, voilà, la nation, on lui pisse à l'arrêt en permanence, c'est devenu horrible, quoi. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette affaire est baignée de tout ça, cette affaire transpire de la désacralisation du deuil. Vous avez les journalistes comme ça qui s'immiscent dans la vie des parents. La désacralisation de l'enfance avec le meurtre du petit. La désacralisation du dépassement de soi. Avec ces gens qui préfèrent tuer un enfant que trouver un moyen d'avoir le même niveau de vie que le père du petit Grégory. Vous avez comme ça le juge incompétent. La petite fiotte là de juge. En plus, il était franc-mac. Mais putain, il y a tout en fait. Il y a tout, il coche toutes les cases de cet enculé. Le mec était un espèce de juge sans envergure, un petit scribouilleur. Mais vraiment, vous savez, le franc-mac de province, comme j'en ai affronté certains en vidéo récemment, hein, voilà, je vais pas le nommer, mais vous voyez exactement à qui je fais référence. Le petit affairiste qui est dans les petites affaires de province, vous savez. Le petit mondain de province, là. Voilà. Sans envergure, qui se prend pour je sais pas quoi. Et donc, si vous voulez, ce mec-là a tellement fait de la merde qu'il a fini par se foutre une balle dans la citrouille, en fait. Et c'est très très bien où il s'est pendu, je sais plus ce qu'il a fait. Il est mort dans un coin en écrivant une lettre, en disant « Oui, tout le monde m'a... Personne n'a compris. Ta gueule. Tu t'es pendu et c'est très très bien fait. T'as été une merde et personne va te regretter. » D'ailleurs, c'est très très drôle, parce que ce mec-là a vraiment cherché jusqu'à la fin à faire pitié aux gens. Et il n'a jamais obtenu la pitié, quoi. Dans cette affaire, tous les gens qui ont commenté cette affaire de près de loin, vraiment... Personne ne défend le juge Lambert. C'est vraiment le républicain médiocre dans toute sa splendeur, le type qui a été parachuté dans une province de France qu'il ne connaît même pas. C'était un espèce de Parisien qui a été envoyé dans le Jura. Enfin, il n'était pas opérationnel, quoi. Il n'était pas opérationnel pour la violence de la province, comme ils disent. Donc, si vous voulez, c'est très, très, très emblématique de ce qu'est devenu la France. Un État hyper centralisé qui ne comprend plus rien à ses administrés, qui est complètement déconnecté de ses administrés. Et quand tu as une représentation de l'État dans ces coins-là, ben en fait, tout tombe à côté, les mecs font plein d'erreurs parce qu'ils ne connaissent plus les territoires. Avant, si vous voulez, à l'époque des rois, le pouvoir était distribué à des représentants régionaux qui venaient de ces régions-là, c'est-à-dire les seigneurs, qui eux-mêmes avaient des relais qui étaient des relais locaux. Donc, si vous voulez, l'État fonctionnait de manière décentralisée, c'est-à-dire le pouvoir spirituel et symbolique était centralisé en la personne du roi, donc qui vivait souvent dans le nord de la France, et à Orléans, à Paris, à Soissons, bon bref. Et si vous voulez, vous aviez après le reste de la France, qui était une France des régions, dont les seigneurs et les administrés les administrateurs étaient des gens du cru, d'accord. Donc vous aviez les Occitans qui étaient dirigés par des mecs de Toulouse, qui étaient dirigés par des mecs de Narbonne, qui étaient dirigés par des mecs de Carcassonne, de Béziers, de Dax, de ce que vous voulez. Vous avez des seigneurs locaux, donc qui connaissaient leurs administrés. Donc quand il y avait un meurtre, c'était pas un keuk de la capitale qui vit à 800 km, qui parle même pas le patois du coin, qui était envoyé pour faire la lumière sur l'histoire, si tu veux. Tout se savait. Et derrière, il n'y avait pas de meurtre comme ça, parce que c'était très très rare. Souvent, quand il y avait un meurtre comme ça, c'était un étranger. Parce que tout se savait, les gens se connaissaient, le seigneur connaissait s'administrer. L'appareil de justice était très très corrélé à la réalité organique de la société médiévale locale. Et j'insiste là-dessus. Locale. D'accord ? Le juge connaît ses administrés, le juge connaît, il sait comment ça se passe. C'est pas, moi, vous savez, quand j'ai eu mon procès pour l'affaire de Montjoie, j'ai été jugé à Paris, avec des juges à qui il fallait que j'explique l'humour du Sud-Ouest. Donc une juge parisienne de je sais pas quel âge, il fallait que je l'explique que putain con, ça ne désignait ni les putains, ni le sexe de la femme qu'on appelle le con, que c'était une interjection du parler toulousain. Bon, déjà... Quand tu te retrouves devant un juge qui comprend pas ce que veut dire putain de con, qui croit que c'est une insulte, si tu veux, là tu comprends à quel point le Moyen-Âge nous manque. Tu vois, là quand t'as, mais qu'est-ce que vous voulez dire par putain de con? Mais t'es là, tu fais, mais attends. C'est comme enculé du Marseillais, quoi. Ou enculé, putain, nanana, tu vois. Mais attends, il est pas en train de traiter la personne d'en face d'enculé. C'est une interjection. Mais alors j'en connais pas, mais il doit y en avoir dans, je sais pas, il doit y en avoir chez les Savoyards, il doit y en avoir chez les Bretons, il doit y en avoir chez les Lillois, j'en sais rien moi. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais été jugé à Toulouse par des mecs de Toulouse, ils auraient compris que putain de con, enfin j'aurais pas dû m'expliquer sur putain de con. À un moment, la juge dans mon procès, elle a lu les comment ça s'appelle les PV, elle a lu les extraits de la vidéo. Putain con, cette pancarte con, tu te la carres dans l'oignon con. Enculé, qu'est-ce que c'était pénible. Qu'est-ce que c'était pénible. Qu'est-ce que j'étais triste pour moi et pour la France. Je me suis dit, enculé, c'est une Parisienne. Elle a zéro référence du Sud-Ouest. Et elle est en train de statuer pour une condamnation possible à mon égard. Et elle a toujours pas compris que putain de con, c'est pas une insulte. C'est qu'en fait, là, je suis jugé pourquoi? Pour avoir été Toulousain. Voilà, elle est là, la vérité, quoi. C'est ça que vous me reprochez, enculé de juge parisien. C'est d'être de Toulouse. C'est ça qui vous énerve. Je suis pas une fiotte. J'ai pas les cheveux roses. C'est ça qui vous énerve. C'est que je dise putain de con à la fin des phrases. Ça vous énerve que j'ai encore l'héritage médiéval des Occitans du long Moyen-Âge qui parlaient occitan. C'est pour ça que j'ai été puni, bande d'enculés. Vous supportez pas que je sois une fiotte européanisée avec une énorme UE sur la fesse droite. C'est ça que vous voudriez, que j'ai une énorme UE tatouée sur le cul, quoi. Que je sois un produit là du mondialisme là, sans identité, sans parler. Et oui, je dis putain de con à la fin des phrases. Et qu'est-ce qu'il y a, con? Qu'est-ce qu'il y a? 75, tu vas faire quoi, con? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire la juge? Elle va rien faire. Et je vais continuer à parler avec l'accent, espèce de salope. D'accord? Je vais parler avec l'accent parce que c'est mon héritage. Parce que je suis né en Gascogne. Je suis né à Toulouse. La brique rose, d'accord? Putain. Enculé, elle me fait ressortir les tripes là, putain. Et oui, tu comprendras jamais ce que c'est Toulouse. Les jets de caca, coller son trou du cul et faire la ventouse contre la vitre du bus, tu sauras jamais ce que c'est. Parce que t'as pas fait de rugby, quoi. Parce que t'es pas allé à la couleur de la culotte. T'es pas allé chez tonton à Saint-Pierre. Tu sais pas tout ça, tout ce que je te raconte. Hein. Tu sais pas ce que c'est que de pousser les étudiants dans la Garonne. Tu sais pas ce que c'est quand les mecs éclatés à la gare là. À la gare Matabiau là. Oh putain, non mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un côté, t'es jugé par une gonzesse qui comprend rien. Alors qu'au Moyen-Âge, le juge c'était un gros mec de Toulouse. Donc si tu sortais une punchline toulousaine, tu pouvais l'influencer, ça le faisait rire. Ça le faisait rire le mec. Tu vois? Il comprenait ce que tu voulais dire. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Tu es jugé à Paris. Je peux pas dire, ouais, alors le gonze, là je suis obligé de parler français en fait. C'est le principal problème. Alors que si j'étais à Toulouse, si vous voulez, bon déjà moi je suis pour que les procès ils soient publics. Je suis pour que la foule participe. T'sais. Je suis pour que la foule, parce que moi dans mon procès, il n'y avait que des putains de journalistes de gauche. Hein. La foule, elle peut pas rentrer. Les seuls qui étaient d'accord avec moi, c'était les policiers. Voilà. Et après, les journalistes étaient là en train de regarder, putain, mais s'il y avait le peuple autour là, si vous aviez tout, si y avait tous les mecs qui me suivent et qui me supportent, s'il y avait eu le peuple qui avait eu accès au procès, c'est pas les journalistes seraient pas, c'est pas moi qui aurais été à la place de l'accusé, ça aurait été les journalistes en fait. Parce que dans cette histoire, à part les juges et les journalistes, tout le monde a compris que Christa Hergal est un maire corrompu, qu'il y a des énormes affaires de corruption à Montjoie. On l'a démontré dans 3 vidéos, on a apporté des preuves factuelles, on a montré que finalement le chemin avait dû être refait pour aller sortir les cochons, que le camion, enfin je vais pas revenir dessus, mais si vous voulez, si le peuple avait son mot à dire dans la justice, comme c'était le cas au Moyen-Âge, parce que on pouvait assister au procès, il se faisait pratiquement en plein air en fait les procès au Moyen-Âge, vous voyez? Là, ils auraient fait quoi, les journalistes de gauche, entourés de gros mecs du Sud-Ouest, là? D'accord? Ils auraient fait quoi? Ils auraient regardé leurs chaussures. Voilà, ils auraient regardé leurs chaussures, ces fils de pute. Enfin, bref. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette affaire, c'est ça. C'est l'hypercentralisme. Ils envoient un juge parisien de merde qui connaît rien aux gonzes du Jura. Donc, du coup, le mec se fait mener en bateau. Il fait n'importe quoi. Il comprend rien. Il est naïf comme pas permis parce qu'il a rien vécu. Et c'est ça aussi. C'est que quand t'envoies des juges qui sont des mecs qui sortent de l'école, en fait, ils ont rien vécu. Ils savent pas ce que c'est. Alors là, vous avez administré, ouvrez les guillemets, une patate, fermez les guillemets à cette personne. Oui, je mets une grosse patate dans la FIFA, parce qu'il l'a mérité, quoi. Voilà, tu vois. Et ça, il faudrait pouvoir le dire. Ça, il faudrait pouvoir le dire. Il faudrait que le public soit, oui, il l'a mérité. Il faudrait que le juge, il transpire, en fait. faudrait que le juge il se dise pas, si je rends un jugement de fils de pute, je vais pas pouvoir rentrer à la maison. Et pareil en sens inverse, tu vois. Le mec qui juge les Traoré, là, qui leur a laissé faire je sais pas combien de récidives, et qui a été infoutu de les envoyer durablement en prison, lui, faudrait pas qu'il puisse rentrer chez lui tranquille, en fait. Il y en a plein le cul de ces juges rouges, là, qui connaissent rien à la France, quoi. Les mecs, ils te jugent un père de famille, comme ils jugent une racaille, ils font pas la différence, ces fils de pute. Et encore, si t'es un père de famille, ils vont te mettre encore plus cher. Parce qu'ils considèrent que toi, t'étais censé pas dépasser la limite. Enfin bref. Et donc, c'est pour vous dire que voilà, le juge a été minable. Il a fini par se suicider, c'est bien fait pour sa gueule. Bon, j'aurais préféré, en tant que chrétien, j'aurais préféré qu'il se transforme, qu'il répare ses erreurs, qu'il demande pardon. À la place, il s'est tiré une balle dans la casquette. Hein. Bon, franchement, très honnêtement, hein, en toute honnêteté, bon, c'est pas plus mal. Il va aller en enfer. C'est là où est sa place. Hein. Comment conclure? Qu'il aille un peu se faire enculer, ce fils de pute. Voilà, hein, je pense que c'est une bonne conclusion. Et donc, vous avez ma partie préférée, parce que c'est ça que je vous prépare depuis 45 minutes. C'est le moment où le daron, si tu veux, l'enquête, elle patine, les flics qui font pas leur taf, bonjour, gendarmerie nationale, enfin bref, c'est la catastrophe, les gonzes, ils sont à la masse, les trucs sont pas faits, les journalistes, ils cassent les couilles et tout, tu sais. Et le père de famille, il commence à péter des câbles, en fait. Le père du petit Grégory, il est là, putain, tout le monde me mène en bateau, tout le monde veut des interviews, les gens se jouent de moi, il est manipulé par son avocat, il est manipulé par un journaliste, il est manipulé par sa prof. Le mec devient fou, je sais pas comment il a fait pour pas se suicider, il a vraiment beaucoup de force mentale, beaucoup beaucoup de force mentale. Et ben à un moment, il a fait un truc que savaient faire les Français avant. Et c'est pour moi, c'est l'acmé, c'est le moment le plus stylé de cette affaire, c'est vraiment le moment le plus génial. C'est le moment le plus français et pas le moment le plus républicain. Parce que cette affaire, c'est républicain. Et à un moment, Jean-Marie Villemain, il a fait un truc français. T'sais. Au milieu de toute cette république décadente et défaillante, il a fait un truc français. Il a attrapé un 12. T'sais, il a mis son manteau comme ça. T'sais. Il a fait bon. Ok. D'accord. Donc les flics, là, vous n'arrivez pas à trouver le coupable. Toi, le juge, ta mère est une homme pute. T'es incapable de faire ton boulot. Tu fais mal les gardes à vue. Tu vas pas trouver le coupable. La famille continue à l'insulter. Les journalistes, ils cassent les couilles. Il a mis une espèce de bomber sans cuir, là, comme ils mettaient les mecs à l'époque. Là. T'sais, les mecs qui jouent au flipper et qui commandaient un ballon de rouge au comptoir du PMU. Il a pris sa bagnole. Quand, là, t'sais, je sais pas ce que c'est, ça doit être un Citroën, un XM. Là. Ploum, ploum, il a commencé à caler la vitesse, il a accéléré dans les petites routes sinueuses, il est allé chez le mec qui avait tué son gosse, c'est-à-dire Bernard Laroche, tu vois, ouais mais l'enquête elle est pas finie, elle est finie, il s'en bat les couilles le mec, il a pris un 12, il a mis deux cartouches dans les tubes, il a fait le clac là qui détend, c'est le clac là de quand t'armes le canon là, il l'a foutu dans la bagnole, il a même pas mis sa ceinture de sécurité, à l'époque il y avait pas des bip bip d'énormes tarlouses pour te rappeler de foutre la ceinture, tu la mets si tu veux la ceinture, tu la mets si tu veux en fait, tu vois. Tu la mets si tu veux la ceinture, il n'y a pas de truc électronique qui te casse les couilles. Donc le mec, il a même pas foutu sa ceinture, il a roulé à 115 là sur les routes de campagne. Il est arrivé avec son fusil, toc toc toc. Mais ça c'est génial. Il y a eu toc toc toc. C'est pratiquement un cartoon, si tu veux. Le mec, il fait un dérapage sur le gravier, là, devant la maison de son cousin. Donc, en fait, le kidnappeur de son fils. Donc, il y a eu le de la voiture qui s'arrête sur le gravier parce que tu mets des coups secs. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80-90, quand ton daron, il était énervé, comme les voitures, elles avaient pas l'ABS, il mettait des coups de frein un peu secs, t'avais la bagnole qui faisait... Tu sentais que le mec était énervé dans sa conduite, en fait. Aujourd'hui, comme les voitures, elles ont l'ABS, elles ont des trucs... Mais même quand t'es énervé, la voiture adoucit quand même ta conduite. Mais à l'époque, vraiment, quand le daron il avait envie de te trépaner, tu sentais que la bagnole, c'était la bagnole qui prenait à ta place, en fait. Donc le mec part de chez lui, il fout son fusil dans la malle, il tape des accélérations là, dans le Jura, là, t'sais, Jura Racing, quoi. Tu sais, quand la voiture vient mordre dans le bord de la route, tu sais, je vais tuer l'assassin de mon fils. Ça arrache du bitume, ça arrache les épines de pin qu'il y a sur le bord de la route, parce que là-bas il y a beaucoup de conifères. Hein. Il arrive devant la baraque de son frère, coup de volant, la voiture a fait un énorme dérapage, ça envoie du gravier sur la porte, sur les murs, sur les fenêtres. Le mec, il ouvre la porte arrière. Là, tu sais, quand tu ouvres la porte, que t'es énervé. Il prend son fusil. Alors, je sais pas si c'était un fusil à pompe ou un fusil à pompe ou un juxtaposé. Et là, il y a le tac, tac, tac. Ça, c'est ma France. Ça, c'est ma France. Ça, c'est ma France, putain de merde. Ça, je l'ai connu, cette France-là. J'ai connu les derniers instants de cette France-là, putain. À l'époque où, quand la justice, avec Huck, hein, le père de famille, il prend un 12, il va... Mais à l'époque, il n'y avait pas de racaille. À l'époque, c'était impensable de faire les dingueries qu'ils font aujourd'hui parce que t'avais un mec. Tu pouvais tomber sur des mecs comme ça, en fait. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, pour de vrai, hein. Tu ne pouvais pas faire n'importe quoi parce qu'il y avait des mecs qui se baladaient avec des 12. Hein. Ils avaient des 12 à la maison et ils te tiraient dessus. Hein. Si tu dépassais les bornes, ils te tiraient dessus. Hein. Dans les années 80, jusqu'au milieu des années 90, t'avais régulièrement des affaires avec des mecs qui avaient mis deux cartouches dans un tube de 12 là, et ils avaient assaisonné des gonzes qui essayaient de les cambrioler, qui faisaient je sais pas quoi, qui avaient emmerdé leurs gosses. Ça arrivait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les armes. Parce qu'ils ont compris que le peuple, tant qu'il était armé, t'allais pas pouvoir le vacciner 18 fois en fait. Donc si vous voulez, ça, ce moment-là, pour moi, putain, mais c'est salvateur. Et d'ailleurs, si le père du petit Grégory n'a pas fait de cancer, c'est parce qu'il allait se charger du kidnappeur de son fils à la place de la justice de merde, en fait, qui faisait pas son boulot. Parce que sinon, le mec serait mort de crise cardiaque, de cancer, il en serait devenu fou, en fait. Le mec a rétabli une putain de... On kidnappe pas les gosses. On ne kidnappe pas les gosses. On ne fait pas de mal aux enfants. Quand tu fais de mal aux enfants, tu te mets hors humanité. Les enfants, c'est sacré. Les enfants, c'est sacré. Quand tu fais du mal aux gosses, tu es en dehors de l'humanité et il faut qu'on te supprime. Voilà. Moi, c'est ma vision des choses. L'enfance, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Et pour ceux qui me disent, oui, mais le pardon chrétien, est-ce que Bernard Laroche a demandé pardon à... Vous savez, le pardon, il faut le demander. C'est le B.A.B.A. À chaque fois, il y a des mecs de gauche qui viennent me casser les couilles. Ah, mais c'est pas très chrétien, ça, et le pardon. Ah bon, mais le mec a demandé pardon? Est-ce que le mec a demandé pardon sincèrement? Le pardon s'octroie à condition qu'il ait été demandé. Parce qu'en fait, la demande du pardon te met toi en tant que chrétien face à un choix cornélien. Là, on me demande le pardon. On me demande l'option de pouvoir pardonner. J'avais qu'une option, c'était tuer. Tout d'un coup, on me demande le pardon. Bon, ben, si je pardonne, si le demande de pardon est sincère, il se passe quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui est sincère, je vais vous dire, si vous avez vraiment bon cœur, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et qui est sincère au dernier degré dans sa demande de pardon, si vous le pardonnez, vous accédez à une essence spirituelle supérieure. Vous vous rapprochez tellement du Christ que vous êtes protégé jusqu'à la fin de vos jours de tellement que vous avez fait montre de bonté. Mais si le pardon n'est pas demandé, ben ça finit avec un coup de 12. Et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Est-ce que les gens, ils demandent pardon aujourd'hui? Concrètement, parce qu'on va dire les termes, est-ce que les racailles demandent pardon? Est-ce que le petit Naël, il a demandé pardon? Non, il ne demande pas pardon, donc qu'est-ce que tu veux les pardonner en fait? Qu'est-ce que tu veux activer ce que la chrétienté a de plus beau si en face de toi, tu as une espèce de gremlins qui n'est même pas touché par la grâce d'avoir une âme en fait et qui donc du coup ne comprend pas la beauté qu'est le pardon? Parce qu'il vient d'une ère civilisationnelle où le pardon n'a absolument aucune valeur puisqu'en fait, il est concomitant aux pulsions émotionnelles en fait. Donc si vous voulez, il n'y a pas eu demande de pardon, donc il y a eu coup de 12. Donc on s'en était arrêté au toc toc toc, je vous fais la suite, mais vous la devinez déjà. Ceux qui connaissent l'affaire, vous savez ce qui s'est passé. Bernard Laroche, il était à table là, il était en train de bouffer du pâté. Oui, parce qu'à l'époque, les repas, c'était ça. C'était sandwich de pâté avec un ballon de rouge. Enfin, un ballon, je suis gentil. Il devait y avoir des grosses bouteilles, il devait y avoir des quilles. L'autre, il sort, qu'est-ce que tu fais, Jean-Marie? T'as tué mon gosse. Putain, mais... Ça, c'est ma France. Ça me donne envie de chanter des chants régionaux, ça. Je vous jure, ce moment de l'affaire Grégory me donne envie de chanter des chants régionaux. C'est-à-dire, j'ai envie qu'on écrive une épopée comme la chanson de Roland, tu sais, qui est des troubadours. Jean-Marie Villemain s'est présenté avec un 12 à la porte, nanana. Oui, là, je suis en train de faire la chanson de Ragnar le Rouge dans Skyrim. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie qu'un troubadour mette cette séquence en chanson parce qu'elle est géniale. Elle doit inspirer les générations futures. Jean-Marie Villemain, ce héros français. Tu vois, les Américains, ils ont Captain America, tu vois. Ils ont Captain America, ils ont comment il s'appelle, Spider-Man, tu vois. Nous, on a Jean-Marie Villemain. Un manteau en cuir qui sent le cuir. Et un 12. Putain, mais trouve-moi plus français que ça. Trouve-moi plus français que charger un 12, prendre le Citroën, faire des dérapages sur les routes du Jura, débouler chez l'assassin de ton fils, faire toc 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 parce qu'on est en France. On n'est pas des fils de pute, il y a des conventions sociales, on frappe chez les gens, on n'entre pas chez les gens, on frappe. Donc il y a eu toc toc toc. L'autre il sort, il a pas encore lâché la caisse du fin de repas, il sort là, il est entre le pâté et le fromage. Bernard, t'as tué mon fils. Oui, parce qu'en plus il y a le côté accent du Nord. Alors je sais pas faire l'accent du Jura, mais il y a le côté accent du Nord. Bernard, t'as tué mon fils. Et là, boum, boum, deux coups de 12. Moi j'en ai mis des coups de 12, hein, et j'en ai mis à des sangliers. Un sanglier, ça fait 100 et quelques kilos. Déjà, quand tu vois comme le sanglier de 100 plaques, tu le bouges avec un coup de 12, là, en 12,76. Quand tu lui mets un coup de Brenec, là, en 12,76, tu sais. Quand tu vois comment tu bouges le sanglier, mais je pense que Bernard Laroche, si tu veux, mais l'autre, il a dû... C'est-à-dire, le mec manger du pâté, il l'a mis en abîme, en fait. C'est-à-dire qu'il en a fait un anthropophage. C'est-à-dire que Bernard Laroche mangeait du pâté, tout allait bien parce que c'était un être humain. Tout d'un coup, Bernard Laroche est devenu un pâté. Et comme il mangeait du pâté, ben, c'était de l'anthropophagie, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu coup de 12, le mec, il était prêt à mettre en bocal, en fait. Devant sa femme. Oui, alors ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Oui, parce que le français est quand même déchristianisé. En plus, je crois que la famille Villemain, ils étaient assez cathos. Donc ça, c'est quand même stylé. Le daron, il a une croix et tout sur plusieurs... Il y a plusieurs interviews où on le voit avec une croix. Donc c'était le seul qui n'était pas gauchiste dans ce tas de merde. Bref. Et là, quand... Toc, 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 ding, dong. Ding, dong, comme dirait Slimy, vous rappelez la chanson? Eh, oh, ding, dong. Attendez, on va se la mettre. Attendez. Il est où mon portable? Hey yo, Mister Ding Dong. Attendez, vous vous en rappelez pas, mais moi je vous en rappelais. Bon, attendez, Slimy. Alors je crois qu'il y avait deux i. Slimy. Wake up. C'est comme ça que ça s'appelait. Wake up, it's your birthday. Écoutez ça, écoutez ça. Attendez, il va y avoir de la pub, je pense, parce que maintenant c'est infernal sur YouTube. Voyons. Je vais me remettre le début. Donc là, Jean-Marie Villemain, ça fait des mois que les journalistes lui cassent les couilles. Hein. Ça fait des mois, tu sais, qui. Putain, personne ne trouve le meurtrier de son fils. Tout le monde s'acharne. Allez, c'est bon, je vais régler le truc avec un 12. Et là, t'as cette musique qui démarre. Excusez-moi, putain. Excusez-moi. Oh putain. Ouh, excusez-moi, pardon, je suis désolé. Donc faut imaginer la petite musique qui démarre et tout. Il arrive chez Bernard Laroche. Toc, toc, toc. Wake up. écoutez ça. T'inquiète pas, t'inquiète. Bam. Bam, bam. Oui, parce qu'en plus, quand t'as déjà eu un 12 dans les mains, tu connais le recul, tu connais la sensation, tu sais, t'sais. Un 12, c'est d'une violence. Le mec a dû s'effondrer, il n'y a pas eu de cri. Il est mort sur le coup. Hein. L'impact est tellement violent, le choc biologique est tellement violent que c'est impossible que le mec... Il y a eu du... Pouf, pouf. Le mec est tombé, mais je vous garantis qu'il n'a pas souffert. Devant la daronne, oui, parce que j'allais vous dire, là, il y a l'aspect décristallisé, tu sais, tu dis pas... Rentre à l'intérieur, comment elle s'appelait la femme de Laroche? Attendez, il faut que je me remette le Bernard Laroche. Marie-Ange Boll. Tu vois, il n'a pas dit à Marie-Ange et à leur fils Sébastien, parce qu'il y avait le fils qui était hydrocéphale. Il n'a pas dit, il a pas fait le sicilien, il n'a pas fait l'italien, en fait. Il a pas dit, Marie-Ange, tu prends Sébastien, tu rentres à l'intérieur, il faut que je parle avec Bernard. Il n'y a pas eu ça, en fait. Là, ça a été vraiment là pour le coup, ça a été la France. Là, c'était la France un peu sale. Ça a été la France révolutionnaire. Ça a été la France républicaine quand même. Je dis pas de tuer le mec. Tuer le mec, ça c'est la France de toujours. Le côté républicain, c'est de le faire devant la daronne et le gosse. Il en a rien à foutre, si tu veux. Il en a rien à foutre. Il a déboulé, il a fait allez hop, ta gueule en fait. Le mec, il a décanillé son cousin à 30 ans. Le mec en face de lui avait 30 ans en fait. Un truc de malade. Tiens, prends ça, boum boum, effondré. Effondré. Donc, si vous voulez, pour moi, le meurtre, pas le meurtre, excusez-moi, je reprends, oubliez ce que je viens de dire. L'exécution juste de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain a été, si vous voulez, l'un des derniers trucs de la France d'avant, médiatique. Ça a été un des derniers moments où, parce que les gens, à l'époque, les gens ont trouvé ça sale, mais ça ne les a pas... Ce que je veux dire, c'est que c'était pas révoltant. Les gens se sont dit, bon, il l'a fait parce qu'il le savait. Et ça a été plus ou moins bien pris. C'est-à-dire Jean-Marie Villemain n'est pas devenu du jour au lendemain un assassin, un meurtrier, un type qui n'a plus le droit de marcher dans la rue. Donc, si vous voulez, la société avait encore une conception de la justice, c'est-à-dire, bon... Là, administrativement, ça va un peu lentement. Vas-y, mets-lui un coup de 12. Ouais, c'est bon. Non, mais là, c'est vrai qu'il y a eu des papiers, il y a eu des trucs, des relances. Les avocats, pour l'instant, ils chiffrent, parce que les avocats, ça y va, là. Là, ça y est, elle est là. Pour se faire financer, ils leur vendaient des interviews à Paris Match et tout, pour se faire payer. Non, mais l'horreur. Donc, si tu veux, l'autre, au bout d'un moment, il a dit, allez, d'accord, allez, hop, c'est la machine à billets. Je vais aller mettre un coup de 12 à Bernard Laroche, comme ça, voilà. Mais continue la justice, hein. Continue à ne pas y arriver. Moi, je vais régler ça dans la minute. Mais ça, c'est d'un style. Et si la France fonctionnait encore comme ça, si quand t'as un mec qui fait de la merde, t'avais un Jean-Marie Villemain qui déboule pour aller mettre un coup de 12, parce qu'à l'époque, en plus, il a fait de la prison, mais très très peu. Il a fait très très peu de prison. Parce que les juges, il y avait encore des mecs qui étaient des mecs normaux. Ils savaient que, bon, justice avait été rendue. Voilà. Justice. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis malade comme un chien. Putain, excusez-moi, hein, les amis, désolé. Excusez-moi, oh putain, je suis malade, les gars. Bref, il savait que justice avait été rendue, quoi. Oh, enculé, je morfle. Tiens! Excusez-moi. Hein. Oh putain de merde. Ah putain, désolé. Je vous prie de m'excuser. En plus, je l'enlèverai pas au montage parce que je sais pas le faire. Voilà. Donc vous allez m'entendre éternuer 6-7 fois. Je suis désolé. Donc je disais, excusez-moi, putain, j'ai des sueurs froides et tout, je suis mal là. Je suis très très rarement malade. Mais là, j'avoue que... Quand je suis malade, je suis bien malade. Bref, donc voilà, en fait, il y avait encore des juges qui avaient la capacité de juger... c'est une répétition. Il y avait encore des juges qui avaient la capacité de donner des peines en ayant conscience qu'il y avait une forme de justice qui avait été rendue. Voilà. Alors évidemment, on peut pas relâcher un mec qui a mis un coup de 12 à un autre citoyen français arbitrairement, mais il y avait quand même la notion que, bon, bah, cette histoire elle est louche, allez, tu vas faire 2 ans là de prison, mais c'est bon, après tu sortiras, parce que c'est très certainement lui le criminel. Bon, sachant qu'il avait été reconnu par un voisin qui avait donné un descriptif, qui était le descriptif de qui correspondait, mais enfin le portrait robot est hallucinant. C'est un mec avec des cheveux mi-longs, de la moustache, forte corpulence, dans une voiture rouge, je crois, qui était la voiture de Bernard Laroche, la moustache de Bernard Laroche, la gueule de Bernard Laroche. Ouais, bon. Au niveau des horaires, tout correspond. Muriel Boll, elle était pas dans le bus. Bref. Donc, si vous voulez, justice a été rendue. Et en fait, si on était resté sur ces standards de conception de la justice, c'est-à-dire qu'en fait, on ne substitue pas l'État à notre soif de justice. Ce n'est plus l'État. Ce n'est pas que l'État, on va dire. Ce n'est pas que l'État qui doit rendre justice, c'est nous. Avant, l'État se dépêchait de rendre justice, parce que s'il se dépêchait pas de rendre justice, il y avait des émeutes pour aller crever les types, en fait. Donc, la justice se dépêchait pour pas que les gens se fassent tuer dans la rue. Aujourd'hui, la justice, en fait, relâche des mecs qui vont aller tuer d'autres gens dans la rue. Voilà. C'est, merci la République. Liberté, égalité, nique ta mère. Voilà. Merci les Lumières, merci la franc-maçonnerie, merci les loges. Merci Robespierre, fils de pute. Voilà. Donc, si vous voulez, cet instinct, cette capacité à se faire justice, c'est très important de la conserver. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, il faut être capable de tout faire pour les enfants. Et en fait, Jean-Marie Villemain, il a été capable d'aller au maximum pour son fils. Il a été capable de tuer un autre être humain, ce qui est un interdit énorme. C'est un énorme interdit de tuer. Mais il a été capable de le faire, voilà, pour rendre justice, pour son fils. Et je trouve ça merveilleux. Et vous, en tant que Français, il faut que vous ayez un seuil où vous en foutez des conséquences. D'accord ? Ça, c'est très important de le retrouver. Le seuil où tu t'en bats les couilles des conséquences, parce qu'en fait, ta vie deviendra plus pénible. Parce que les gens disent non, mais si tu tues, tu fous ta vie en l'air. Mais quand t'as un enfant qui est mort, ta vie, elle est foutue en l'air, en fait. Donc, si tu veux quoi ? Rebondir, te faire une série Netflix et ça repart ? C'est une blessure que tu gardes à vie, en fait. C'est quelque chose, c'est un trauma et un drame que tu traîneras toute ta vie. Et en fait, il y a rien qui est au-dessus de la vie d'un enfant. Il y a rien qui est au-dessus de la vie d'un enfant. Donc, nous serons un peuple respectable quand nous aurons retrouvé à échelle, à grande échelle, cette capacité d'aller au bout pour protéger nos enfants. Voilà. Et là, vous verrez que dans le camp d'en face, que je ne vais pas nommer, ça se calmera. Parce qu'à l'époque, c'était très calme, hein, je peux vous le dire. Quand t'avais des villemains qui se baladaient avec des 12, la racaille de cité, ne vous inquiétez pas qu'elle venait pas planter des mecs dans des balles de campagne. Ben, par exemple, la mort de Thomas, à l'époque, c'est pas des banderoles qui s'allaient mettre dans la cité. Hein. À l'époque, t'aurais eu des types avec des 12 qui seraient allés réparer la dette de sang. Donc, voilà, vous en êtes là où vous a amené la République, c'est-à-dire à être des animaux désarmés, sans griffes, sans crocs, des brebis. Elle a fait de vous des brebis, elle a fait rentrer les loups. Et elle ne fait plus son boulot de chien de berger. Voilà. C'est pour ça que je veux que vous retourniez à la boxe, c'est pour ça que je veux que vous retourniez vers des choses qui vous reconnectent à vous-même, même à travers votre métier, vous voyez. Jean-Marie Villemain, c'est un ouvrier. Un ouvrier, tu lui casses pas les couilles, hein. Un ouvrier, il est fatigué, il a un certain seuil, tu dépasses ce seuil, c'est un coup de 12. Elle est simple, la vie. La vie en France dans les années 80, elle est très simple. Il y a des règles, si tu les dépasses, c'est coup de 12. Voilà. Et la société était beaucoup, beaucoup plus normale. La société était beaucoup plus fonctionnelle. C'est contre-intuitif aujourd'hui. Quand tu expliques au jeune PD moderne, tu lui dis, dans les années 80, c'était plus simple parce qu'il y avait des gens qui étaient capables de mettre des coups de 12 à des criminels. Il te dira, mais non, c'était le règne de la violence, mais attends, il faut laisser la justice faire son travail. Non, parce que la justice ne fait plus son travail. La justice ne fait plus son travail. La justice, ça va faire un procès pour une mascotte de fouine. Elle ne va pas aller mettre le nez dans les comptes de Christian Régal, le maire de Montjoie. Voilà. C'est ça la justice aujourd'hui. Donc si vous voulez, moi, quand je vois un mec des années 80 qui va mettre un coup de 12 parce que les juges sont incompétents pour régler les problèmes, ça ne peut que me régaler. Ça ne peut que me régaler. Je trouve même ça, pour tout vous dire, inspirant. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai une limite. Hein, j'ai un seuil. Hein. J'ai un seuil à partir duquel ma vie deviendrait trop infernale si je réagis pas. Et ça me brûlera pour le reste de ma vie. Donc, si le reste de ma vie est foutu, autant aller me faire justice. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, si cette affaire était allée plus loin, si vraiment ils avaient trop joué avec mes couilles, hein, il y a un moment où j'aurais mis le bouton on. Et voilà. Et je pense que Dieu fait bien les choses. Ça s'est arrêté juste au moment. Et c'est pareil pour... C'est pareil pour Pierre-Guillaume de la ferme des cochons laineux. Moi, je pense que Dieu m'a fait intervenir au moment où il y avait des coups de douce qui allaient être distribués. Parce qu'en fait, il vivait une injustice monumentale. C'est un paysan. C'est comme les ouvriers, si tu veux. Faut pas leur chatouiller les couilles trop longtemps. Alors, les paysans, ils se suicident maintenant parce que ce sont des gens vraiment qui ne veulent pas faire de mal. Mais moi, je vous dis que dans le secteur-là, il y a des maires qui sont passés très, très, très près de choses assez dramatiques. Et de manière assez inconsciente. Parce qu'ils ont poussé un homme à bout, et quand tu pousses un homme à bout, tu peux t'exposer à des choses terribles. Donc, heureusement, j'ai fait les vidéos pour calmer le jeu, et en fait, on les a baisés. Parce qu'en fait, le maire de Montjoie, comment on l'a baisé ? On l'a baisé avec la cagnotte, en fait. Quand il a vu le soutien populaire, quand il a vu la cagnotte, les juges, le maire, les francs-macs, Jean-Michel Baillet, il l'avait dans le cul profondément. Il l'avait dans le cul profondément, parce que là, c'était le soutien populaire était sans équivoque, en fait. Là, c'était le triomphe vraiment de la justice populaire face à la mafia étatique et franc-maçonne, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, le jour où notre peuple reviendra à cette capacité à mettre un coup de 12 ans, eh ben, en fait, ça ira beaucoup mieux, on se fera beaucoup plus respecter. Voilà. Par la police, par les institutions, voilà. Mais comme on a accepté d'être désarmé et déspiritualisé, on n'a plus de cap et on n'a plus rien pour nous chapeauter, donc on est comme des brebis égarées, à la merci des loups. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire, ça a été un petit peu laborieux, je suis désolé, j'étais malade, je vous prie de m'excuser. C'était ce que je voulais vous dire sur cette affaire et à quel point c'était important de tirer la symbolique de tout ça. Et d'en tirer la conclusion qu'il faut être en capacité de se défendre, de défendre les siens, voilà, par tous les moyens possibles. Donc reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à votre corps, faites de votre corps une arme mentale, psychologique et physique. Et voilà, réarmez-vous, redonnez-vous des standards élevés de respect de soi-même, à partir desquels vous serez en capacité de vous faire entendre. Si on fait tout ça, je vous garantis que ça va filer doux. Ça va filer doux. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous de vous être procuré notre bande dessinée Dino Brutal Age. Vous êtes régalé avec les aventures de Mac Burney. Il y aura un tome 2, évidemment, qui s'appellera, je sais pas encore comment, mais il va exister. Il n'est pas pour de suite, hein, parce que j'ai encore une parution en 2025, on verra quand est-ce qu'on fait ça. Mais il y aura un tome 2, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui me l'ont demandé, voilà. Et puis pour les autres qui se le sont pas encore procurés, si vous voulez soutenir ce podcast, vous procurez mon livre, édition Magnus, sur le site Magnus, c'est toujours mieux que sur Amazon. Et voilà. Et dernière chose, ne vous inquiétez pas, si les podcasts n'arrivent pas le dimanche soir, ils arrivent courant lundi, lundi soir ou plus tard. Voilà. Donc pas d'inquiétude, il peut arriver que j'ai des week-ends très chargés. Et dans ce cas-là, il faudra que vous armiez de patience, les amis. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir écouté. Si vous voulez me soutenir, Dino Brutal Age aux éditions Magnus, sur le site des éditions Magnus. Merci encore, à très bientôt.